C'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée à celui qui dit tant est la meilleure conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Ce dont nous vous remercions. Alors Virginie, on peut dire que depuis la plus haute antiquité, l'art de soigner les chevaux s'est continuellement amélioré au fil du temps et beaucoup d'hippiatres s'y sont intéressés. On fait de cette science une science importante.
Oui Michel, parce que depuis que l'homme monte à cheval ou travaille avec le cheval, il est bien obligé d'être confronté à la manière de les soigner. Donc, ce qui va être un travail empirique va devenir petit à petit une véritable médecine vétérinaire qui se développe dans un premier temps chez les peuples cavaliers. Et puis, on voit apparaître les premiers traités comme l'hyposcopie de Simon d'Athènes vers 424 avant Jésus-Christ. Le monde grec sera très important pour tout ce qui est hypiatrie et médecine de manière générale. Dans le monde arabe, ce sont les traités de Furicia. Et puis en Europe occidentale, beaucoup d'autres, comme celui de Jordanus Rufus. Mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître la première école vétérinaire au monde.
D'accord. Vous êtes sur CFM, vous écoutez les messagers du cheval. Alors Virginie, à qui doit-on cette, on pourrait presque dire, première école vétérinaire?
C'est la première école vétérinaire.
C'est la première école vétérinaire, d'accord.
Et on la doit à Claude Bourgelat. Et c'est de lui dont nous avons vous parlé aujourd'hui. Alors Michel-Claude Bourgelat est considéré comme le fondateur de la médecine vétérinaire scientifique, le fondateur incontesté de l'enseignement de la profession vétérinaire. Il naît le 27 mars 1712 au sein d'une famille noble de Lyon. Son éducation est classique et il semblait destiné à une carrière d'avocat, qu'il abandonnera cependant au bout de 7 ans, car son amour des chevaux en a décidé autrement. Alors comme tous les hommes de son rang, on dira, et passionné, il lit les écrits des grands maîtres écuyers de l'époque. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, ceux-ci développèrent les connaissances en santé animale, ainsi que l'équitation classique toujours pratiquée aujourd'hui.
Alors, encore jeune, finalement, il réalise un cursus assez incroyable.
Absolument. En 1740, il a 28 ans et il obtient le brevet d'écuyer du roi, ainsi que la direction de l'Académie d'équitation de Lyon, ce dont il s'acquittera jusqu'en 1765. Dans cette école, destinée aux jeunes nobles, y était enseigné l'art équestre, mais également l'escrime, les mathématiques, la musique et, je cite, les bonnes manières. Extrêmement cultivé, Claude Bourgelat entretenait également une correspondance avec les grands penseurs du siècle des Lumières, comme Voltaire, D'Alembert, un des rédacteurs de l'encyclopédie, et le roi Frédéric II de Prusse. Donc il n'est donc pas étonnant, Michel, qu'il ait participé à la rédaction de l'encyclopédie en 1751, pour laquelle il rédigera plus de 200 articles. Alors, ces articles sont très variés, si certains traitent de l'art du manège, comme, je cite, l'écurie, l'exercice, le galop, on en trouve également d'autres qui sont des mémoires consacrées à la médecine vétérinaire. Par exemple, l'effort, l'entorse, la fourbure ou les fractures.
Son peut-être premier ouvrage marquant date de 1744, Virginie.
Oui, il s'appelle le Nouveau Newcastle. Et c'est une référence à la nouvelle méthode de dresser les chevaux du duc de Newcastle, ouvrage écrit en 1658. Donc celui-ci, qui s'appelle Nouveau, cherche ainsi à faire mieux que ce que proposait le maître écuyer anglais. On y trouve des notions sur l'histoire de l'art équestre, les principes d'éducation du cheval destinés au manège, ses défauts, ses qualités, le maintien du cavalier.
Donc c'est une espèce de science globale en fait,
oui,
qui
c'est
à la fois l'art de soigner, l'art de monter, l'art d'entretenir les chevaux.
Quoi.
C'est quelque chose de tout à fait complet. Comme ça se faisait beaucoup à cette époque, c'était très encyclopédique les travaux des chercheurs. Bourgelat pense que la science vétérinaire en fait doit être la plus complète possible, quoi.
Oui, parce que tous ces travaux l'ont amené à se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'inexactitudes. C'est pour ça que, comme l'indique un de ses biographes, il a essayé de comprendre et de développer ses connaissances vétérinaires Et pour cela, il va travailler auprès de deux chirurgiens lyonnais, Claude Poutot et Jean-Baptiste Charmeton, avec lesquels il va étudier l'anatomie, la physiologie et les pathologies des animaux. Ce qui l'amènera en 1750 à écrire « Éléments dipiatriques » ou « Nouveaux principes sur la connaissance de la médecine des chevaux ». Ce livre, important, lui permettra d'être nommé membre correspondant de l'Académie des sciences. Il est très prolixe, hein, Claude Bourgelat, et dès 1761, il publie la première édition de l'art vétérinaire ou médecine des animaux.
D'accord. Alors avant de nous intéresser à la création de l'école vétérinaire, nous allons nous accorder un peu de musique, La pluie et le beau temps, interprétée par Zazie.
Tu fais la pluie.
Nous sommes sur CFM. Alors, question Virginie, comment Bourgelat passe-t-il de l'Académie d'équitation de Lyon à la création de la première école vétérinaire ?
Alors Michel, ça va se faire grâce à un acteur important dans cette histoire que je vais vous présenter maintenant. Cet acteur, cet homme, c'est Henri-Léonard Bertin, intendant de la Généralité de Lyon de 1754 à 1757. C'est à cette époque que les deux hommes sont devenus amis. Et puis, il ne faut pas oublier, Michel, que Bourgelat, en tant qu'avocat, avait connu énormément de personnalités. Puis Bertin quitte Lyon pour Paris, où il fut nommé lieutenant général de la police, puis contrôleur général des finances du royaume. Et ça, ça fait de lui un ministre d'État. Donc, on peut dire d'une certaine manière que c'est un proche de Louis XV. En 1761, Bourgelat a 49 ans. Il dirige donc toujours l'Académie royale depuis 25 ans. Cette même année, les ministres de Louis XV tentent de contrer les épidémies animales, de protéger les pâturages et de mieux former les fermiers. C'est pour cela que Bertin, qui a été chargé d'administrer cette réforme agricole initiée par le roi, a l'idée, vraiment une idée qui s'impose à lui, de créer un enseignement vétérinaire. Et pour cela, il propose la création d'une école vétérinaire à Lyon.
Qui existe toujours.
Bien sûr, elle n'est plus au même endroit qu'à l'époque, mais elle existe toujours. Qui serait confiée à Claude Bourgelat. C'est ainsi que le 4 août 1761, il est autorisé par arrêt du Conseil du roi Louis XV à ouvrir une école dans les faubourgs de Lyon. Elle a pour vocation d'enseigner, et là je cite, « publiquement, les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux, ce qui procurera insensiblement à l'agriculture du royaume les moyens de pourvoir à la conservation du bétail dans les lieux où cette épidémie désole les campagnes. » Alors, l'épidémie en question, il s'agit de la peste bovine. Alors, Bourgelat obtient une bourse de 50 000 livres payable sur 6 ans. Et 6 mois plus tard, les premiers étudiants furent admis à l'école.
Alors justement, si on pouvait parler peut-être un peu de ces étudiants.
Voilà. Tout à fait.
Donc il y a des thésards en particulier.
Alors, ce que nous savons concernant notamment le fonctionnement de l'école vétérinaire de Lyon, on le doit à une thèse actuelle dont le chercheur s'est consacré au fonctionnement de l'école de Lyon au XVIIIe et XIXe siècle. Et grâce à lui, on sait que le seul critère d'admission des élèves, des étudiants, était de savoir lire et écrire.
Ce qui, à l'époque, était un bon niveau universitaire, entre guillemets, si je puis dire.
Savoir également, Michel, qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et ainsi, on peut trouver en 1762, côte à côte dans la même classe, un enfant de 11 ans et un homme de plus de 30 ans. Alors, les étudiants devaient également fournir un certificat de baptême et un certificat de bonne conduite. Et Bourgelat, et ça c'est assez étonnant, mais en même temps on comprend pourquoi après, rejetait les étudiants en médecine. Pourquoi ? Parce qu'il craignait qu'ils n'abandonnent la médecine vétérinaire pour ne se consacrer uniquement qu'à la médecine humaine et à la chirurgie qui rapportait plus d'argent.
Ah, d'accord.
Donc, à la fin de l'année 1762, l'école comptait 38 étudiants. Plus tard, ils viendront de toute l'Europe pour se former aux sciences vétérinaires avant de fonder eux-mêmes des écoles dans leur propre pays. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on comptera 15 écoles vétérinaires qui verront le jour. Alors, un petit peu d'informations quant aux cours, Michel. Donc, l'école proposait des cours théoriques divisés en trois classes. La première était consacrée à l'étude des parties externes, l'ostéologie et la mycologie. La deuxième à la matière médicale, l'étude des viscères et aux bandages. La troisième à la physiologie, la médecine, la pharmacologie et la bonne utilisation des médicaments. Alors, ce qu'on demandait aux étudiants, c'était de recopier les informations qui étaient écrites sur un tableau et de les savoir par cœur. Mais Bourgelat sentait bien que cela ne suffisait pas et il préférait la pratique plutôt que la théorie. C'est pour cela qu'il amenait les étudiants à voir et à pratiquer des dissections. Il faisait également de la botanique et travaillait à la forge, car il pensait que les vétérinaires devaient savoir ferrer. Les étudiants devaient également nourrir les animaux, entretenir les salles de cours, les écuries et les forges. Et quand ils étaient placés sous l'autorité d'un maître, ils pouvaient faire des consultations, s'occuper des animaux hospitalisés et préparer les médicaments.
Vous êtes sur CFM, vous écoutez Les Messagers du Cheval. Le travail de Bourgelat, en fait, porte ses fruits.
Oui. Et on le voit dès 1763 parce que il y a eu des vrais succès lors d'une épizootie, c'est une épidémie animale, qui ont donc convaincu le roi et Bertin du bien fondé de l'école. C'est pour cela que, un an après, en 1764, un nouvel arrêt du Conseil d'État du roi, donne à Lyon le titre d'école vétérinaire royale. Ce qui lui vaut d'être subventionné par l'État, ce qui est quand même le nerf de la guerre, on dira. Bourgelat fut nommé, là je cite à nouveau, directeur et inspecteur général de l'école vétérinaire de Lyon et de toutes les écoles vétérinaires établies et à établir dans le royaume. Il est également nommé commissaire général des haras du royaume.
C'est-à-dire qu'il gère l'ensemble des haras en quelque sorte.
Oui.
Voilà, c'est lui le responsable en fait de la gestion des haras du royaume. D'accord.
Et ce n'est pas tout, Michel, car en 1764, Bertin demande également à Bourgelat de créer une nouvelle école vétérinaire, cette fois au château d'Alfort, à côté de Paris.
Maison Alfort, où l'école vétérinaire existe toujours. C'est peut-être une des plus prestigieuses du reste. Hein, oui.
Et certainement une des plus anciennes.
Et une des plus anciennes également, absolument, oui.
Alors, dans un premier temps, le temps que les travaux soient faits au château, les étudiants étudient à proximité, ils y sont accueillis dès 1765. Alors, ce qui est très important, c'est que Bourgelat, à l'époque, jette les bases de l'éthique vétérinaire, cela d'une manière très précise et très détaillée, grâce à un ouvrage écrit en 1777 qui s'appelle « Règlement pour les écoles vétérinaires de France ». Il ne cessera d'enseigner, et ce jusqu'à sa mort, le 3 janvier 1779, à Paris, à l'âge de 67 ans.
Il fait déjà un bel âge à l'époque.
Bien sûr. Et il ne cessera non plus jamais d'écrire des ouvrages, tous à l'usage des étudiants des écoles vétérinaires. Alors, il y en a beaucoup, je vais en citer quelques-uns. Précis anatomique du corps du cheval comparé à celui du bœuf et du mouton en 1791, ou encore le traité de conformation du corps du cheval, de sa beauté et de ses défauts en 1808.
D'accord. Alors Bourgelat aussi, comme tu me l'as susurré à l'oreille, est le promoteur de la biopathologie comparée, n'est-ce pas ?
Voilà. Cet homme était révolutionnaire à tous les points de vue, puisque cette biopathologie comparée a été reprise en 2004 sous l'expression One World, One Health, hein, un monde, une santé. Donc il s'agit d'une méthode scientifique qui désigne une stratégie mondiale de gestion des risques en prenant en compte, et ça c'est très important, l'animal, l'homme et l'environnement.
Dire qu'on en parle toujours et que c'est pas fait.
Exact, c'est ça. On a affaire à un homme qui est, on peut dire, un bienfaiteur de l'humanité, hein, puisqu'il a compris très tôt combien les trois fonctionnaient ensemble. Par ailleurs, ce qui est très important aussi dans sa méthode, c'est qu'il faisait la différence entre une démarche empirique et le raisonnement scientifique. Et également, ce qu'il a amené dans ses recherches très loin, c'était qu'il était persuadé de la similitude entre ce qu'il appelle la machine humaine et la machine animale. Et ça, tous les propriétaires de chevaux le savent, on partage la même pathologie.
Mais il était incroyable, hein, il avait une vision extraordinairement précise.
Et pour te dire à quel point cet homme est important, les vétérinaires prêtent aujourd'hui, et depuis longtemps, le serment de Bourgelat, à l'image des médecins, qui, eux, prêtent le serment d'Hippocrate.
D'accord, absolument.
Alors, ce serment de Bourgelat, le voici, exprimé, c'est l'article 19 du règlement des écoles de 1777. Toujours imbu des principes d'honnêteté qu'ils auront puisés et dont ils auront vu des exemples dans les écoles, ils ne s'en écarteront jamais. Ils distingueront le pauvre du riche, ils ne mettront point à trop haut prix des talents qu'ils ne devront qu'à la bienfaisance et à la générosité de leur patrie. Enfin, ils prouveront par leur conduite qu'ils sont tous également convaincus que la fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui que l'on peut faire. Je promets et je jure devant le Conseil de l'Ordre des Vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle aux règles prescrites par le Code de déontologie et d'en observer en toutes circonstances les principes de correction et de droiture. Je fais le serment d'avoir à tout moment et en tout lieu le souci constant de la dignité et de l'honneur de la profession vétérinaire.
Alors je crois que nous arrivons à la fin de cette émission, Virginie. Alors nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, même heure et même adresse. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Et bien sûr, un grand bravo à tous les chevaux.
Ciao. Et un grand merci à Bourgelat.
Et un grand merci à Bourgelat. Et un grand merci à Virginie aussi.